Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Passons directement au titre de cette édition. Le Covid-19 gagne de plus en plus de terrain au Burundi. Dans ce journal, nous irons en province Kayanza où l'hôpital ne trouve plus de place pour les malades. De son côté, la population demande le renforcement des mesures de protection contre le Covid-19. Vous suivrez des Burundais vivant au pays qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba. Et puis, pour avoir revendiqué leurs droits, trois médecins de l'hôpital de Muyinga viennent d'être suspendus. C'est un abus de pouvoir, comme le dira un expert du droit de travail, toujours dans ce journal. C'est le journal de ce lundi, 18 janvier 2021. Jospin Douimana est aux manettes. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
83 personnes ont déjà été testées positives au Covid-19 en province de Kayanza depuis le 8 janvier 2021. Selon certaines sources à Kayanza, certains malades suivent leur traitement à la maison suite au manque de place à l'hôpital. La population craint la propagation du Covid-19 dans les parages de ces malades. Prosper Nzisavila, reportage.
Ces personnes ont été testées positives du Covid-19 en province de Kayanza depuis le 9 janvier 2021 jusqu'au samedi le 16 du même mois. En date du 14 janvier, le nombre de testés positifs était de 34. Vendredi le lendemain, il a été testé positif 34 autres. Tandis que samedi le surlendemain, il a été enregistré 15 selon les sources à l'hôpital de Kayanza. Parmi les testés positifs, il y a deux infirmiers et deux travailleurs non infirmiers, tous de l'hôpital de référence de Kayanza. Toutefois, pour des cas jugés non encore graves par les services médicaux, on leur fait des traitements auxquels ils continuent à être soumis à domicile. Et pour cause, les capacités d'accueil de ces malades dans cet établissement hospitalier sont déjà dépassées, expliquent les responsables. Une situation qui, jusque-là, inquiète la population, laquelle craint la propagation du virus. Cette même population demande au gouvernement de faire tout le possible pour trouver solution à cet état de choses afin de barrer la route à l'expansion de la pandémie. Signalons que la majorité de ces personnes testées positives relèvent du district sanitaire de Kayanza et d'autres du district sanitaire de Gahombo.
Prosper Nzisavila. L'État devrait prendre d'autres mesures pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Selon des Burundais qui se sont entretenus avec la radio Inzamba, les effectifs des personnes contaminées à la Covid-19 s'accentuent de plus en plus dans différentes provinces du pays. Écoutez-les.
Le gouvernement semble ne pas y investir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que d'abord, au départ, le gouvernement disait que le peuple burundais est un peuple qui croit beaucoup en Dieu, que ce fléau-là ne va pas du tout faire des dégâts. Et voilà, même les mesures barrières qui avaient été prises, notamment celles-là en rapport avec l'installation des dispositifs de lavage des mains, le fait de ne pas se saluer en se serrant les mains, ce sont des mesures qui n'ont pas, elles ont été arrêtées, mais il n'y a pas eu de suivi pour pouvoir les mettre en application, pour inciter la population, contraindre la population à mettre ces mesures-là en application.
L'État a pris en main la question de sensibiliser la population. Le port de masque est obligatoire pour les passagers de bus ou ceux qui se déplacent à vélo ou à moto. Maintenant, les Burundais ont commencé à prendre l'habitude d'éviter de se saluer avec la main. Aujourd'hui, nous constatons que l'État essaie de prendre des mesures appropriées pour lutter contre cette pandémie. Ce n'est pas la même chose qu'à l'époque des élections. Nous avons entendu dans les médias que les gens contaminés guérissent facilement. À présent, nous n'avons pas peur.
Alors, la population a peur. La population a trop peur. Parce que même les cas de testés positifs qui sont jugés moins moins graves, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas encore au stade de la détresse respiratoire, on leur fait des traitements et puis après, mais ils sont sommés de rentrer chez eux pour rester soumis à ce traitement-là. Et la population a aujourd'hui peur, elle craint que et ceux-là, les testés positifs qui rentrent à la maison, au lieu de rester hospitalisés quelque part, risquent de contaminer tout le monde. Donc on a peur que la pandémie risque de faire des ravages auprès de la population.
Aucune autorité n'a le droit de prendre une décision unilatérale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé, en même temps vice-président du comité de lutte contre la propagation de cette pandémie, l'a annoncé ce lundi à la presse. Tade Ndikumana précise que le ministère de la Santé est disposé à écouter toute personne qui veut apporter sa contribution à travers l'instance habilitée à prendre des mesures irrelatives. On l'écoute.
Nous avons constaté qu'il y a des responsables qui ont pris des initiatives et parti par là par rapport au port de masque. Nous réitérons l'appel que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et préconise sûrement le port de masque au niveau des transports en commun. Il en est de même pour les écoles et certains établissements qui ordonnent la fermeture ou des mesures qui ne sont pas à l'heure parce que nous devons au savoir que la vie continue et que les techniciens, les responsables sanitaires sont là pour prodiguer des conseils si un administratif ou un responsable d'un établissement constate qu'il y a une ou l'autre mesure à prendre. Donc nous réitérons l'appel à ce que la population puisse rester calme, sereine et vaquer quotidiennement aux activités et au développement. Et autre chose, c'est l'état de certains responsables qui prennent des mesures activement, ils devront toujours consulter le ministère de la Santé pour avoir des conseils adéquats, mais aussi se fier aux communiqués qui sont mis à la disposition de la population à travers le comité national.
Il fait sans doute partie des tout premiers Burundais à avoir été vaccinés contre le Covid-19. Alexis Savouchimike vit en Grande-Bretagne. Il exerce dans le corps médical. Il a reçu sa première dose il y a un mois. Il avait rendez-vous samedi dernier pour la seconde et dernière dose, mais la donne a changé en raison de la gravité de la pandémie dans le pays. Mais Alexis Savouchimike ne désespère pas. Suivez-le.
Oui, je garde toujours la même confiance. Au début, on nous disait, bon, vous allez avoir la deuxième dose après 3 semaines. Maintenant, on nous dit, ce sera après 3 mois. La seule raison est que le chiffre des cas ici en Grande-Bretagne, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le gouvernement a pris la décision qu'il vaut mieux vacciner beaucoup de gens au lieu de vacciner ceux qui ont déjà eu la première dose. Donc, c'est pour vacciner plus beaucoup de gens et peut-être, bon, le virus va diminuer. Et puis, bon, moi, j'aurai la seconde dose au mois de mars, donc ça ne m'inquiète pas beaucoup.
Qu'est-ce que vous diriez aux sceptiques qui pensent toujours que le vaccin n'a rien à faire dans cette histoire, qu'il n'est pas nécessaire et qui n'y croient pas du tout?
Vraiment, c'est vraiment inquiétant partout au monde, parce que il faut d'abord voir le chiffre de décès en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, au Brésil. Alors, s'il y a un vaccin, il faut quand même que les gens savent que les gouvernements, ils sont là pour eux. Donc, si les gouvernements disent que le vaccin, ça va vous protéger, il faut que les gens vraiment aient confiance au gouvernement. Sinon, les morts, on les comptera peut-être dans des millions. Bon, ils sont déjà à millions. Donc, il faut que les gens aient confiance en leur gouvernement et surtout aux experts médicaux ou autres.
Comment prévenir la COVID-19 dans les milieux carcéraux? Mettre à la disposition des détenus du matériel adéquat pour se protéger contre la COVID-19. Sensibiliser les détenus et garantir les conditions propices pour la prévention de la COVID-19. Port de masque et tests obligatoires pour les nouveaux arrivants. Faire des tests de masse réguliers aux détenus et isoler les détenus infectés afin de protéger les autres. Limiter les visites et les mouvements des détenus libres afin de protéger tout le monde. Respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux aux détenus et surtout le droit à la santé.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Je vous le disais dans les titres, 3 médecins de l'hôpital de Muyinga sont en suspension de travail. Ils sont en conflit avec le médecin directeur de l'hôpital. Pour cause, les 3 médecins seraient les promoteurs des revendications des primes de travail. Les autorités sanitaires de Muyinga refusent de s'exprimer sur ce cas. Révérien Bazikamwe.
La suspension de ces 3 médecins de l'hôpital de Muyinga date du 15 janvier 2021. Docteur Willy Kwizela, docteur Sylvie Ngabide et docteur Jean-Sinzo Batohana sont suspendus pendant 15 jours, la période durant laquelle ils n'ont pas le droit de circulation dans les enceintes de l'hôpital. Le médecin directeur de l'hôpital qui a signé sur la lettre de suspension accuse ces médecins d'insubordination, d'inciter le personnel de l'hôpital à la révolte et de lancer des messages de haine. Ces médecins auraient tenu des propos mensongers dans les lettres de réclamation avec un objectif d'appeler le reste du personnel au boycott général du travail selon toujours la lettre de suspension. Cette mesure est précédée de la lettre de doléance adressée au médecin directeur de l'hôpital fin de la semaine dernière. Parmi les 10 signataires du conseil médical sur cette lettre, Dr. Willy Kwizela fait partie. Il demandait au médecin directeur d'octroyer la prime au personnel comme prévu et comme cela est le cas aux hôpitaux voisins. Selon nos sources à Muyinga, les concernés seraient au point de dénoncer les vices de procédure de cette suspension. Certaines autorités sanitaires provinciales de Muyinga auraient été saisies. Nous avons essayé de joindre le médecin directeur de l'hôpital de Muyinga, Dr. Abadi Mounienhoali, pour de plus amples informations. Il n'a pas décroché son téléphone. Le directeur provincial de la santé, Dr. Eric Mouzima Analoui, n'a pas voulu s'exprimer.
Merci, révérien Bazikamwe. Il est impensable que les travailleurs soient punis pour avoir alerté sur leurs droits qui sont bafoués. Pour Maître Vital Nshimilimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, ce n'est pas étonnant de la part du régime actuel. Le défenseur des droits de l'homme fait remarquer que c'est devenu un mode de gouvernance. Vital Nshimilimana rappelle qu'un hôpital est un bien public.
C'est surprenant, c'est vraiment regrettable quand on entend que des travailleurs ont été sanctionnés pour avoir contribué à la dénonciation, démarvelisation et autres actes de mauvaise gestion qui sont opérés au sein de leur service. Normalement, lorsque les travailleurs constatent des actes de mauvaise gestion ou de marvelisation, il est de leur devoir de dénoncer ces actes car il en va de l'intérêt du service, de l'intérêt des travailleurs et de l'intérêt des bénéficiaires. Parce qu'en dernière analyse, les grands perdants d'une mauvaise gestion d'un hôpital public, c'est la population qui, en retour, va manquer les services, va manquer les prestations qui normalement étaient données par l'hôpital. C'est regrettable quand nous entendons que un médecin et des infirmiers de l'hôpital de Muyinga ont été sanctionnés pour avoir dénoncé des actes de marvelisation. En principe, quand des travailleurs font un acte de bravoure de cette nature, ils devraient être primés, ils devraient être récompensés. Mais comme dans l'ensemble des services publics, c'est la corruption, les marvelisations et d'autres actes de mauvaise gestion qui sont le style du gouvernement actuel au Burundi, ce n'est pas étonnant de voir que des fonctionnaires, des travailleurs font objet de telles sanctions.
Cet ancien représentant syndical du personnel de la justice appelle le personnel de l'hôpital Muyinga à soutenir leurs collègues en suspension pour défendre leurs droits. Il interpelle le ministère de la Santé pour sanctionner les cadres qui abusent de leur pouvoir. Écoutez encore une fois Vital Nshimilimana.
Ce que nous pensons, c'est qu'il revient aux travailleurs à travers leurs organisations syndicales et autres, le comité d'entreprise ainsi que ceux qui sont intéressés par la gestion de l'hôpital, il revient à tous au bon monde de se lever pour défendre les intérêts de l'hôpital parce que l'hôpital c'est un bien public. Lorsque l'hôpital se porte mal, toute la population qui bénéficiaient de ces prestations ainsi comble. Et puis, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux autorités sanitaires au niveau provincial ou national de suivre ce cas et de faire rentrer ces travailleurs dans les droits et de poursuivre les auteurs, complices et autres de ces actes de mauvaise gestion et de marvelisation des biens et finances de l'hôpital.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
La suite de ce journal avec la sécurité, une femme âgée de 28 ans qui habitait au quartier Rubouillet, situé dans la ville d'Ngozi, a été assassinée. Son corps portait des traces de coups de couteau au niveau de la tête. Le drame s'est produit dans la nuit de ce dimanche à lundi. Selon la police, le présumé auteur de ce crime est son mari, Emmanuel Nyandoui. Il a été appréhendé. Les informations fournies par leurs voisins indiquent que le couple vivait ensemble sans être mariés et ne faisaient pas bon ménage. Les habitants de la zone Maranvia, commune Burambi en province Lumongue, vivent la peur au ventre après l'assassinat d'un retraité des ex-forces armées burundaises nommé comme Niongabo samedi dernier. La police et l'administration l'accusaient d'être de mèche avec les groupes armés qui perturbent l'ordre dans la région. Ils s'inquiètent en outre de la sécurité des personnes qui ont été appréhendées par les forces de l'ordre après cet assassinat. Bonfils Niongere.
Les habitants des localités de Gishiha, Maranvia, Gisagazuba et Numbwe, nous sommes dans la commune Burambi en province Lumongue au sud-ouest du Burundi, sont pris dans une peur panique. Certains craignent la vengeance des groupes armés qui viendront probablement pour venger le retraité tué par les forces de l'ordre samedi dernier. D'autres craignent plus qu'ils pourront être victimes des arrestations qui pourront suivre son assassinat pour des personnes qui seront accusées de collaborer avec ces groupes armés. Les sources de la radio Nzamba, Agatekawa, Maranvia et indique que certains des habitants de cette zone se regardent en chien de faïence. Les mêmes sources indiquent que comme Niongabo était tellement recherché par la police depuis plusieurs mois et sa tête aurait même été mise à prix. La police avait promis un montant de 3,5 millions de francs burundais à tout individu qui les verrait ou se trouverait comme Niongabo. C'est alors samedi dernier que plusieurs policiers appuyés par des militaires ont mené une opération dans la localité de Mikinya, la sous-colline Numbwe où ils se trouvaient. Ils auraient tenté de s'évader mais ils ont laissé lui grièvement blessé. Il a succombé de ses blessures. Quelques minutes plus tard, confirme les mêmes sources. Deux autres individus qui étaient avec lui ont été arrêtés. Ce sont les nommés Marc Ndouamungu, lui aussi blessé, et un certain Proté. Ce dernier avait été arrêté deux jours avant. Marc et Proté ont été directement acheminés vers les cachots du service national des renseignements à Bujumbura, Rancheris, les sources de la radio Nzambaga Tegakawe au sein de la police à Lumongue. Deux autres personnes ont été appréhendées le même jour. Il s'agit du frère de Kome Niongabo, prénommé Egide, souvent appelé Egidio, ainsi que son épouse. Les habitants de Burambi s'inquiètent sur la sécurité de toutes ces personnes appréhendées. Les anciens frères d'armes de Kome Niongabo au camp Lumongue, transformés plus tard en 512e bataillon d'infanterie, le décrivent comme un homme agréable, gentil et courageux. Kome Niongabo était rentré à retraite avant 2015. Il laisse une femme et quatre enfants. Information confirmée par les administratifs locaux.
Bon fils Niongere. Et pour terminer, le commerce frauduleux des sachets non biodégradables continue de se manifester dans divers endroits de la province de Muyinga. 47 kilogrammes de sachets de couleur blanche ont été saisis dimanche sur la colline de Murama, zone Rugali, en commune et province Muyinga, selon des sources administratives à Murama. La même source précise que ces sachets en provenance de la Tanzanie ont été saisi avec du jus de marque Énergie. Le mercredi de la semaine dernière, plus de 5000 autres sachets avaient été saisis en commune de Gasogwe quelques jours auparavant. Une autre saisie de plus de 4 millions de ce même type de sachets avait été opérée dans les parages du centre urbain de Muyinga. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Jospin Duimana pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Gatekakawi pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien.